sujet aussi au sein du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique de la Société française de pédiatrie et puis plus localement de mon service. Bien sûr, on est tous sollicités par ce sujet et on va essayer de trouver ensemble des organisations aussi, peut-être discuter de circuits patients. Voilà. Alors, ouais, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. L'idée, c'est de, voilà, de discuter de différents sujets. Alors, j'ai prévu quand même un petit plan, pas vraiment de diaporama, mais un petit plan pour qu'on aborde les sujets peut-être un peu les uns après les autres. Peut-être d'abord reparler de la présentation clinique des enfants à partir de notre expérience à Jean Verdier, hein, les enfants qu'on a eus. Et voir un peu les signes d'appel qui peuvent nous faire penser à une infection Covid chez l'enfant, parler du diagnostic de la PCR et des sérologies, de l'algorithme de prise en charge que je vous ai envoyé et qui va, je pense, être le plus intéressant pour vous dans la période actuelle, à savoir quels enfants faut-il voir, dépister, penser au coronavirus et puis qu'est-ce qu'on peut en faire. Parler peut-être un peu des écoles et des crèches. Et puis, à la fin, peut-être parler un tout petit peu, vous nous direz, hein, mais des difficultés qu'on peut avoir dans la reprogrammation et le rattrapage des retards de prise en charge d'enfants qu'on voit arriver maintenant. Alors, sur la présentation clinique des enfants, on a eu un secteur Covid, on s'est organisé à Jean Verdier pour trier les enfants avec un circuit dédié aux urgences pédiatriques assez séparé et surtout un secteur d'hospitalisation pour tous les cas suspects ou les cas confirmés qui avaient besoin d'être hospitalisés. Alors, on a testé peu d'enfants par rapport à toutes les suspicions, hein, parce que vous avez suivi qu'on avait des difficultés importantes de réactifs et de places pour faire des PCR, qui ont été de façon très logique réservées aux patients de réanimation et donc aux adultes. Et donc on a eu 180 enfants qui ont consulté aux urgences pédiatriques dans la période là, pendant les 2 mois de confinement avec une pathologie respiratoire fébrile. Donc on a considéré qu'ils pouvaient être suspects d'infection Covid. Ceux-là, on ne les a pas testés. Ils sont rentrés à la maison parce qu'ils allaient tous bien. Et on les a vus régulièrement. Alors, on les a eus au téléphone, pardon, régulièrement, à 48 heures, à 6 jours et à 10 jours de vie. Enfin, à 10 jours de leur passage aux urgences. On a eu 12 enfants hospitalisés qui étaient vraiment confirmés Covid et qui étaient hospitalisés pour ça. Donc, des enfants avec des pneumopathies virale et qui avait vraiment une symptomatologie évocatrice d'infection Covid. C'était beaucoup des petits, hein, on a eu 60% d'enfants de moins de 3 mois et sinon des pathologies différentes, voilà, mais pas d'enfants graves dans cette période-là. Donc, tout le monde m'entend bien, hein. Oui.
Oui, on vous entend.
Oui, on m'entend. Donc voilà. Alors, c'est pour rappeler les signes cliniques. La présentation, je pense, du Covid chez l'enfant peut être très polymorphe. Hein. Ça, on le sait plutôt avec la littérature, avec des séries plus importantes et l'étude Pandore qui a colligé donc les enfants de Jean Verdier mais aussi de une trentaine de services de pédiatrie en France. Et donc là, on est à plus de 300 enfants. Donc ça permet d'avoir des choses un peu plus significatives et qui montrent bien que la symptomatologie est très polymorphe. Il n'y a pas de signes cliniques qui nous permettraient de faire un diagnostic d'infection à Covid sur des arguments cliniques par rapport à une infection à VRS, une grippe, etc. Avec des signes digestifs qui sont quand même assez fréquents, de la diarrhée, des douleurs abdominales, ça c'est assez fréquent, des signes respiratoires bien sûr, mais qui peuvent aller d'une rhinite simple à une vraie détresse respiratoire avec des signes de lutte, parfois une oxygénodépendance, voilà, donc très polymorphe. Par contre, il n'y a pas de facteur de risque en dehors du jeune âge où il y a plus d'enfants testés qui sont positifs. Donc là, dans l'étude Pandore, c'est 45% des 300 enfants qui ont moins de 3 mois. Sinon, il n'y a absolument aucun signe très évocateur et aucun facteur de risque. En particulier, les enfants asthmatiques, par exemple, ne sont pas à risque de forme grave d'infection Covid. De même que, alors, l'obésité, il y avait des tout petits chiffres, donc c'est difficile de dire ça. C'est vrai qu'il y a quelques ados avec des BMI très élevés qui se sont retrouvés en réa, mais globalement, il n'y a pas vraiment de facteur de risque. Et les enfants, par exemple, qui sont sous immunosuppresseurs, n'ont pas fait des infections Covid plus graves que les autres, ou les enfants qui ont des maladies auto-inflammatoires. Ou les diabétiques, par exemple. Alors là, en ce moment, on a beaucoup de découvertes de diabète, donc on se pose un petit peu la question du rôle du virus dans le déclenchement du diabète, mais les enfants diabétiques n'ont pas décompensé, en tout cas, leur pathologie avec le virus. Donc sur cette présentation clinique, après on pourra parler des signes, hein, des signes post-Covid plutôt, où là c'est vraiment un tableau clinique très différent. Vous avez entendu parler des syndromes inflammatoires, donc on peut peut-être en parler juste après avec atteinte myocardique. Est-ce que vous avez déjà des questions sur la présentation clinique? Est-ce que vous avez une expérience différente?
Excusez-moi, je voulais savoir s'il y avait une atteinte cutanée, je n'ai pas entendu, s'il y avait des lésions,
ouais, des éruptions. Il y a des éruptions, mais qui ne sont pas aussi fréquentes que chez l'adulte. Il y a quelques enfants qui ont des engelures avec des atteintes plutôt distales et réellement des engelures, donc comme on connaît dans les lupus engelures, et d'ailleurs qui sont, ça c'est assez intéressant sur le plan de la physiopathologie, parce que dans les lupus engelures, qui sont des formes de lupus pas très sévères en général, mais qui sont traitées par du plaquenil, ça se présente vraiment comme des engelures ou un syndrome de Raynaud simplement. Et c'est lié à une sécrétion très importante d'interféron. Et on sait que dans la réaction inflammatoire de l'infection Covid, la sécrétion d'interférons est très importante et plutôt de bon pronostic. En fait, les enfants qui fabriquent de l'interféron, ou les adultes d'ailleurs, ça veut dire qu'ils sont très virémiques au départ, donc ils ont éventuellement des symptômes un peu plus bruyants que les autres au début de l'infection, et par contre ne vont pas faire la phase inflammatoire secondaire 10 jours après. Hein. Et les adultes, c'est typique. Il y a vraiment un groupe qui sait fabriquer de l'interféron et puis un groupe qui a beaucoup de mal à fabriquer de l'interféron et qui fabrique beaucoup d'interleukine 6, au contraire, et donc il y a un déséquilibre de cette balance. Et là, c'est ceux qui font les formes graves avec atteinte respiratoire très sévère qui vont en réanimation.
Vous avez des questions, n'hésitez pas à enlever le mode muet et à activer parce que c'est compliqué.
Alors sinon, sur les maladies de Kawasaki et les myocardites, et globalement les syndromes inflammatoires post-infection à SARS-CoV-2, là on est dans un autre registre. Vous avez vu que c'est survenu très secondairement par rapport au pic épidémique, et en particulier le pic épidémique des enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez tous suivi, mais il y a eu le pic épidémique adulte et il y a eu un petit pic épidémique enfant. En tout cas, tous les cas pédiatriques ont été décalés d'une dizaine de jours par rapport aux adultes, déjà, de la primo-infection. Alors, ça veut peut-être vouloir dire que, on en reparlera, mais que on a d'autres arguments pour penser ça, hein, mais que les enfants sont réellement contaminés par les adultes et pas l'inverse. Et par rapport à ce pic, il y a eu un délai de 3 semaines au minimum, mais qui a pu aller jusqu'à 6 semaines pour l'apparition de syndromes inflammatoires post-Covid. Donc, ces syndromes inflammatoires, parmi eux, il y a des myocardites. Donc, c'est les formes les plus sévères. Pour l'instant, il y a 63 cas répertoriés en France qui sont des myocardites dont beaucoup vont avoir besoin d'aller en réanimation. Ils se présentent avec une symptomatologie de myocardite. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, c'est vrai qu'on n'en a pas tous les jours en pédiatrie. C'est des enfants qui arrivent avec des douleurs abdominales très importantes, des vomissements, une fièvre très importante et souvent de la diarrhée. Le tableau digestif, il est vraiment au premier plan pour la myocardite, ça on le sait, hein, chez l'enfant. Et ça peut être des tableaux de pseudo-péritonite avec un ventre qui est très dur. Il y a un certain nombre de ces enfants qui ont été transférés dans des services de chirurgie et qui ont une laparotomie en pensant à une péritonite, et qui en fait c'était une péritonite blanche sans pus, et le diagnostic d'insuffisance cardiaque a été posé secondairement. Donc c'est pour dire que le tableau est assez trompeur. C'est plutôt des enfants de plus de 5 ans, enfin plutôt entre 5 et 12 ans, hein, globalement. Et ces enfants avec des myocardites, ils ont besoin d'aller en réanimation. Un certain nombre ont besoin d'inotropes. Ils ont souvent des syndromes, enfin des signes cutanés, là, avec, qui peuvent ressembler au Kawasaki aussi, avec souvent une conjonctivite et une éruption cutanée. Et ils sont toujours très fébriles, avec des syndromes inflammatoires très importants, des CRP souvent à 300, 400. Une PCT également élevée, sans argument pour une infection bactérienne. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas passer à côté d'une une infection à staphylocoque ou à streptocoque, parce que les tableaux peuvent être assez proches. Et puis, il y a le groupe des maladies de Kawasaki-like, qui en fait, là, sont beaucoup plus proches de ce qu'on connaît et de maladies de Kawasaki qu'on voit régulièrement en pédiatrie. Simplement, là, il y a eu un pic avec la grippe au mois de janvier et un deuxième pic avec l'infection Covid, qui est à peu près similaire en nombre au pic habituel qu'on a tous les ans avec la grippe. Mais là, il y a eu deux pics, donc il y a eu deux fois plus de maladies de Kawasaki en pédiatrie cette année. Là, c'est en train de diminuer fortement, aussi bien pour les Kawasaki que pour les myocardites. Et dans les deux cas, il y a une déclaration, enfin, on signale ces cas à Santé publique France avec un recueil de données cliniques, et donc c'est quelque chose qui est maintenant très suivi. Dans les deux cas, le traitement par immunoglobuline est très efficace. Des fois, il faut faire deux doses. Des fois, il faut y associer des corticoïdes comme dans des maladies de Kawasaki un peu sévères. Mais globalement, c'est plutôt d'assez bons pronostics probablement. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est comme toutes les myocardites, est-ce qu'il n'y a pas quelques enfants qui vont faire des fibroses myocardiques très, très tardive. Et donc, il va falloir suivre ces enfants. On leur fait des IRM cardiaques 3 à 6 mois après la myocardite. Mais ça, c'est comme toutes les myocardites. C'est globalement sans doute moins sévère que des myocardites à entérovirus qu'on connaît bien en pédiatrie parce que pour l'instant, il n'y a aucun enfant qui ait fait des troubles du rythme ventriculaire sur la myocardite. Bon, quoi qu'il en soit, quand on pense à un tableau évocateur hein, d'atteinte cardiaque post-Covid, il faut que ces enfants soient vus dans les services d'urgence. Et nous, on a maintenant des tests qui sont assez fiables, y compris quand on n'a pas d'échographie cardiaque facilement disponible. Le dosage de la troponine et du pro-BNP nous permet quand même de voir si ces enfants ont des arguments pour une insuffisance cardiaque, sachant que sur la radio, le cœur n'est pas dilaté en général à ce stade-là. Donc, on n'attend pas qu'il y ait un gros cœur ni des signes d'insuffisance cardiaque avec un gros foie. Devant un tableau digestif important et un gros syndrome inflammatoire, en ce moment, on dose facilement comme ça le pro-BNP. Ça nous aide à décider de l'échographie cardiaque. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur ces maladies inflammatoires post-coronavirus. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Pour ceux qui voudront regarder demain, il y a Envoyé spécial où les équipes de Robert Debré et de Necker vont être interrogées là-dessus. Le risque, c'est de penser que finalement le Covid peut être très grave chez l'enfant. Il faut quand même rester dans l'idée que ça reste des cas exceptionnels. Voilà, il y a eu une centaine de cas en France parmi. Si on considère que dans les zones avec une circulation importante du virus, au moins 10% des enfants ont rencontré le virus, c'est des incidences qui sont très inférieures à 1 pour 10 000. Hein. Donc, ça reste quand même rare. Donc, il ne faut pas en tout cas baser notre stratégie de santé publique là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces formes cardiaques.
Non, je voulais savoir côté pratique en ville, du coup, si on a des diarrhées, des vomissements, est-ce que ça vaut le coup de faire
Alors, je pense qu'il faut déjà avoir l'approche clinique habituelle, pas passer à côté des autres diagnostics et de ce que. Voilà. Après. Je pense que il faut leur faire un bilan inflammatoire. S'ils ont, alors certains disposent peut-être de CRP en microméthode. C'est vrai que voilà, il faut utiliser un peu ce qu'on a. C'est vrai que s'il y a des syndromes inflammatoires importants et des fièvres qui durent plusieurs jours, parce qu'en général, hein, c'est après 4 ou 5 jours de fièvre qu'on se pose la question. D'abord, apprécier l'état hémodynamique. C'est sûr que s'ils ont un temps de régulation cutanée élevé, une tachycardie au-delà de ce qu'on peut attendre malgré la fièvre, ceux-là doivent être adressés aux urgences. Dans d'autres cas, si on a un doute, peut-être que si vous avez moyen de doser le BNP facilement. Alors, sachant que les normes chez l'enfant ne sont pas tout à fait les mêmes que chez l'adulte, mais globalement, un BNP supérieur à 150 doit nous inciter à demander une échographie cardiaque.
Ok. Merci.
Il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Alors. Après, vous allez voir peut-être aussi des maladies inflammatoires ou des syndromes post-Covid qui sont des tableaux assez variés avec des fois des atteintes cutanées. Donc, il y a des érythèmes noueux, par exemple, et des fois des signes neurologiques. On a eu deux enfants avec des encéphalites. On en a eu un avec une paralysie faciale, donc un mois après son infection Covid. Voilà. Donc, des formes neurologiques, il y en a aussi chez l'adulte. Il y a eu quelques syndromes de Guillain-Barré. Bon, voilà, ça reste aussi très, très exceptionnel. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on peut penser en ce moment. Bon, il ne faut pas penser que Covid, hein, et bien sûr, faire attention à ne pas passer à côté des autres diagnostics. Mais de temps en temps, je pense que ça peut voilà, faire une sérologie en particulier, on en reparlera. Mais ça peut être une bonne indication de faire une sérologie, parce que même si l'enfant n'a pas présenté de symptômes et qu'on pense pas qu'il ait fait une infection Covid, le fait d'avoir une sérologie positive avec des IgG élevés va éventuellement nous orienter là-dessus. Voilà. Et comme on a des syndromes inflammatoires post-infectieux avec d'autres virus, on va en avoir avec le coronavirus et peut-être un peu plus parce que c'est quand même un virus qui stimule beaucoup le système immunitaire. Après, donc on a eu nous une myocardite, hein, Jean Verdier, et qui a été en réanimation et qui va bien, et deux maladies de Kawasaki. Voilà, voilà. En sachant qu'on recrute quand même assez large, hein, enfin.
Les signes neuro, agueusie, anosmie chez l'enfant, il n'y en a pas ?
Non, alors c'est difficile, mais chez des ados, on l'a trouvé, hein, à l'interrogatoire, on a retrouvé ça de temps en temps. Après, bien sûr, chez les petits, c'est compliqué. Hein, mais, alors, je disais qu'on a eu beaucoup de petits de moins de 3 mois. Chez eux, c'est vraiment là le tableau neurologique est assez en avant. Donc, ils viennent avec de la fièvre et ils sont très, enfin, ils font très méningés en fait. Ils sont hypotoniques, irritables, grognons, et donc on peut peut-être imaginer qu'ils ont des céphalées comme les adultes, mais qu'ils expriment ça comme ça, et peut-être même une agueusie, perte de l'odorat qui doit les perturber sûrement chez un tout petit de 3 mois, mais qu'on ne sait pas diagnostiquer, bien sûr. Mais l'atteinte neurologique des tout petits a l'air d'être… c'est difficile, hein, parce qu'on n'a pas d'argument. Alors, on leur fait souvent des ponctions lombaires parce qu'on ne veut pas passer à côté d'une méningite bactérienne et il n'y a pas de réaction cellulaire. La PCR COVID est toujours négative dans le liquide céphalorachidien si on l'a fait. Et par contre, nous, on dose l'interféron dans le liquide céphalorachidien qui est souvent un peu élevé. Voilà, il y a peut-être d'autres cytokines qui sont élevées et donc on peut imaginer une réaction un peu inflammatoire, neurologique, mais qui est transitoire. On les revoit. Alors ça, vous pouvez être amené à revoir ces enfants, je pense. Et donc là, je pense que c'est des enfants sur lesquels il faut être un peu attentif sur leur développement neuro. On ne sait jamais, quoi. On peut imaginer, les enfants qui font la grippe, hein, chez les tout-petits, vous connaissez, c'est pareil, hein, ils ont, on est des fois un peu inquiet sur la neurologie, et puis finalement, ils vont avoir des développements psychomoteurs parfaits, qui ne vont plus nous inquiéter. Je ne pense pas qu'il y ait d'examen à faire en dehors du suivi neurologique et habituel, hein, mais pas d'IRM ou de choses comme ça, mais peut-être être un peu attentif sur leur développement, on ne sait jamais. Enfin, voilà.
Est-ce qu'il y a des risques pour les femmes enceintes qui accouchent par rapport à leurs enfants ? Est-ce qu'il y a eu des cas ou pas ? Pas du
tout. Alors, il y a un risque pour la femme enceinte elle-même si elle fait une infection Covid pendant la grossesse. Peut-être qu'elles font des formes un petit peu plus sévères. Mais à Jean Verdier, il y en a une seule qui a dû aller en réanimation sur 25, je crois, femmes qui ont fait une pneumopathie virale à Covid pendant la grossesse. Donc, pas de risque majeur quand même. Ce n'est pas comme la varicelle, par exemple. Il n'y a pas de risque de pneumopathie très grave chez les femmes enceintes. Par contre, ça, comme toutes les infections virales, ça peut déclencher des accouchements prématurés. Donc, en particulier, donc, si elles font l'infection pendant le troisième trimestre, on a eu un peu plus de prématurés, mais ça n'a pas non plus rempli les services de néonates. Hein. C'était à la marge, hein, mais ça a été signalé. En tout cas, il y a eu une petite alerte à un moment là-dessus. Et puis finalement, voilà, il n'y a pas eu tellement de cas quand même. Et par contre, on n'a pas eu de transmission materno-fœtale. Les contaminations, elles sont vraiment après l'accouchement, après la naissance. Et vous connaissez les recommandations de la Société française de néonates, hein, sont de ne pas contre-indiquer l'allaitement, de laisser le bébé avec sa maman. Et avec ça, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu peut-être des enfants qui ont été contaminés par leur maman et qui ont fait une petite infection à 15 jours, 3 semaines de vie, mais sans conséquence. Et là-dessus, je pense, enfin, c'était une recommandation assez courageuse de la Société française de néonates, hein, parce que il y a beaucoup de pays qui ont décidé de séparer la mère de l'enfant à partir du moment où la mère avait une infection Covid. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont été séparés pendant plus d'un mois de leur mère pendant le premier mois, ce qui est quand même difficile, mais c'est la politique de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis. Voilà, maintenant qu'on montre qu'il n'y a pas d'infection grave chez les tout-petits, je pense qu'ils vont aussi revenir sur leurs recommandations. Donc, au tout début de l'épidémie, hein, le premier papier des Chinois, vous aviez peut-être vu, parler d'un surrisque pour les enfants de moins de 6 mois. Et puis, vous savez qu'il y a eu un décès d'un enfant aux États-Unis qui avait 8 mois, je crois. Donc, il y a mis un peu le doute. Mais on sait très peu de choses de cette mort inattendue du nourrisson. C'était une mort inattendue du nourrisson. On ne sait pas, je crois qu'il n'y a pas eu d'autopsie, donc on a retrouvé le virus dans le nez de l'enfant. On ne peut pas dire qu'il est décédé d'une infection réellement par le coronavirus. Donc voilà, je crois qu'on peut être rassuré. Et en France, vous savez qu'il y a eu 5 enfants décédés. Ils avaient tous plus de 3 ans. Et 4 sur les 5 avaient des pathologies graves. Par ailleurs, donc soit avait été greffé, une greffe de moelle osseuse ou une maladie métabolique, etc. Et donc on pense qu'ils sont morts de leur pathologie primaire plus que de l'infection, même si ça a pu être un facteur de décompensation de leur maladie, mais pas une cause. Et il y a eu une seule adolescente, mais pour laquelle l'histoire n'est pas très claire, hein, le premier décès qui est une adolescente de 14 ans qui n'avait pas de comorbidité et qui est décédée avec un arrêt cardio-respiratoire. Alors, à ce moment-là, on ne parlait pas des myocardites. Peut-être qu'elle a fait une myocardite. J'ai pas plus d'informations sur ce cas. On peut peut-être parler un peu de...
Emilien, je peux poser une question ?
Oui, bien sûr.
C'est Gull. Donc, est-ce qu'il y a des cas de thrombose également chez les petits?
Non, on n'a pas eu de cas. Enfin, il n'y a pas eu de cas de thrombose de rapporter chez l'enfant à aucun moment. Alors qu'on la cherche, hein, tous les enfants grands en tout cas, on leur a fait des angioscanners pour voir s'il n'y a pas d'embolie pulmonaire ou pour un certain nombre des échos Doppler. On n'a pas eu de thrombose, non. Mais c'est vrai que chez l'adulte, c'est assez fréquent, hein, je crois. Donc, oui, si on parle un peu des méthodes diagnostiques, je pense que ça vaut le coup de parler un peu de la PCR. Et puis, vous allez me dire un peu votre expérience, mais vous allez être amené à, je pense, maintenant en tout cas, à prescrire plus de prélèvements nasopharyngés. Parce qu'on veut dépister, on ne veut pas manquer un cas, etc. Donc, parler un peu de la PCR, c'est utile, à la fois du prélèvement Donc là, je vous ai envoyé un petit document de Gérard Chéron sur la technique de prélèvement. Il y a pas mal de tutoriels aussi voilà, qui circulent. Vous pouvez, voilà, il y en a qui sont très bien faits sur le site de la Société française de pédiatrie pour montrer comment prélever les enfants. Sachant que quand on regarde dans les services, en fait, y compris dans le mien, j'arrête pas de remontrer aux infirmières comment prélever, parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs qui sont en fait vraiment liés à un prélèvement qui est pas fait dans des bonnes conditions. Donc, si on fait le prélèvement et c'est pas très agréable pour l'enfant, autant essayer de le faire bien. Bon, c'est pas très compliqué non plus. Hein, normalement, il y a des écouvillons qui sont spécifiques pour les enfants, mais qui sont très difficiles à voir. Sinon, les écouvillons un peu plus grands, enfin pour équivalent aux adultes, hein, voilà, on l'enfonce bien sûr un peu moins loin qu'un adulte. Ce qu'il faut, c'est vraiment d'avoir des sécrétions nasopharyngée pour avoir des cellules. Il ne suffit pas d'avoir du liquide. C'est pour ça que le prélèvement salivaire n'est pas bon. Il faut vraiment avoir des cellules nasopharyngées. Et donc, il faut mettre l'écouvillon et le tourner plusieurs fois pour essayer de décrocher quelques cellules de la muqueuse. Alors, chez les plus grands, on peut leur demander de boucher une narine et de souffler. Et là, ça décroche des sécrétions nasopharyngées. Voilà, donc la technique de l'écouvillon est importante. Il y a pas mal de laboratoires de ville, hein, qui font des prélèvements chez les adultes, mais qui ne veulent pas les faire chez les enfants. Donc, vous pouvez être amené pour les enfants, où on peut réfléchir à des circuits où c'est le médecin qui fait les prélèvements, mais il faut qu'il ait des écouvillons dans son cabinet qui ont été donnés par le laboratoire de ville, par exemple, pour ensuite les adresser avec un coursier au laboratoire, sachant qu'ils peuvent se garder à 4 degrés pendant quelques temps. Ensuite, la PCR elle-même, donc tout le monde utilise maintenant la même technique. La PCR, il faut savoir que la sensibilité est de 70%. Donc, on passe à côté de certains cas. Donc, c'est jamais une certitude. Le fait d'avoir une PCR négative ne va pas exclure totalement la possibilité de diagnostic. Pour les enfants, enfin, on va peut-être en parler un peu plus en détail. On va voir dans l'algorithme, hein, quelles sont les indications de réaliser une PCR. Mais globalement, là, on a dû batailler beaucoup avec la Direction générale de la santé pour essayer de diminuer un peu les indications. Hein. Vous savez que chez les adultes, ils veulent, à juste titre probablement, pendant ce début de déconfinement, essayer de dépister très large pour ne pas rater un cas et pour tracer le cas avec les cas contacts et ensuite vraiment essayer de remonter la chaîne pour reconfiner par petits clusters ou par famille simplement ou même par cas unique pour éviter les nouvelles chaînes de transmission. Alors, il faut savoir que l'enfant est très peu impliqué, en fait. Maintenant, on le sait, on peut le dire de façon quasi formelle, que l'enfant est très peu responsable de la transmission du virus dans la population. Donc, c'est là où il y a eu des discours qui ont pu être un peu contradictoires initialement. Beaucoup ont eu peur d'un mode de transmission proche de la grippe et donc ont pu se dire, comme la grippe, c'est les enfants qui vont contaminer les adultes. Et ça, c'est une réalité pour la grippe ou pour d'autres virus. Pour le SARS-CoV-2, on a un modèle qui est complètement différent, où là, c'est réellement, à chaque fois qu'on a eu un enfant positif. On a pu prouver pratiquement qu'il était contaminé par son papa ou sa maman. Donc, par un adulte au domicile avec des contacts rapprochés. Et donc, on pense même que le confinement, on a eu plus de cas chez des enfants à partir du début du confinement, parce que là, ils se sont retrouvés avec leurs parents et avec des contacts très rapprochés, proches. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça ne remet pas du tout en cause le confinement, mais c'est important d'être bien au fait de ça pour discuter des écoles en particulier ou des crèches, parce que globalement, on peut réellement être assez rassuré sur le fait que les enfants ne vont pas contaminer des adultes et donc ont peu de risques ou très peu de risques de contaminer leurs professeurs, par exemple, ou les gens qui travaillent en crèche. Ils se contaminent aussi quasiment pas ou de façon très très exceptionnelle entre enfants. Donc dans une crèche, bien sûr, il y a pour l'instant des mesures de distanciation, etc., mais qui vont être parfois très très difficiles à appliquer. En fait, et ça on le sait par exemple en regardant ce qui s'est passé dans les crèches qui sont restées ouvertes pour le personnel médical, ou dans les écoles qui sont restées ouvertes pour le personnel médical, il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de cluster, il n'y a eu aucune école, aucune crèche, où il y a eu, alors que leurs parents étaient soignants, trimballaient sans doute le virus pour un certain nombre de ces parents, comme moi par exemple, ont pu ramener le virus à la maison et contaminer leurs conjoints, mais n'ont pas contaminé les enfants, enfin, de façon assez étonnante hein, même. Donc, c'est pour dire que voilà, il y a assez peu de risques. Et ça, toutes les publications qui sont en train de sortir en pédiatrie le montrent. Pour à titre d'exemple, hein, par exemple aussi à Jean Verdier, on a fait au total à peu près 300 prélèvements PCR chez des enfants. Elles ont été positives sur l'ensemble des patients qui étaient des patients symptomatiques, etc., simplement dans 3% des cas, alors que chez l'adulte, ils étaient à des taux qui vont plus aller jusqu'à 50% de PCR positives au pic épidémique. Donc, vous voyez qu'il y a des différences quand même très importantes. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut essayer d'expliquer, je pense, aux enseignants, aux personnels qui travaillent dans les crèches pour essayer de les rassurer. Nous on fait une étude en ce moment qui commence juste, qui s'appelle Covid aux crèches, où justement on est en train d'analyser et de tester par PCR et sérologie. Alors là, on fait des sérologies au bout du doigt pour les enfants de personnel soignant qui étaient en crèche, et justement pour montrer qu'il y a probablement peu d'enfants contaminés, en tout cas pas plus que les enfants qui étaient restés à la maison confinés dans la même période. Donc ça, vous avez peut-être suivi l'étude de Robert Cohen qui s'appelle Coville. Donc là, c'est une trentaine de pédiatres libéraux et médecins généralistes qui ont testé de façon comme ça aléatoire des enfants qui venaient pour des vaccins ou autre chose. Ils leur ont fait des sérologies au bout du doigt et il y en a à peu près 10% qui avaient rencontré le virus et simplement 1% qui étaient porteurs du virus dans le nez sur des PCR. Donc voilà, alors sur la sérologie, on peut peut-être en dire un tout petit mot parce que voilà, la sérologie, il y a une technique qui est la technique de référence, qui est une sérologie de laboratoire qui nécessite une vraie prise de sang. Et c'est un test ELISA qui permet de tester plusieurs antigènes du virus et avec des IgM qui apparaissent à peu près 5 à 6 jours après le début de l'infection et des IgG 12 jours au plus tôt, mais plutôt 3 semaines à 1 mois après l'infection. Ça, c'est la technique de référence, mais qui nécessite une vraie prise de sang. Et donc, elle est réservée à des patients pour lesquels vous allez demander un bilan sanguin pour autre chose. Il y a un certain nombre de laboratoires de ville qui l'ont mis au point. On peut la faire à l'hôpital à Huit-Seine sans problème. Il y a maintenant des sérologies en test de diagnostic rapide qui sont assez intéressantes, donc on appelle les TROD. Et il y a 5 ou 6 laboratoires qui en fabriquent avec finalement des sensibilités, des spécificités qui sont assez intéressantes, qui sont de près de 90%. Il n'y en a pas une qui soit vraiment mieux que l'autre, et des spécificités aussi de 90 à 95%. Donc là, on pique quelques gouttes de sang au bout du doigt, et on peut lire le résultat avec IgG et IgM 15 minutes après le test. Alors, on met quelques gouttes de réactif. Voilà. Alors, je ne pense pas que ça soit remboursé pour l'instant, ça je ne sais pas très bien. Nous, on en dispose un petit peu à l'hôpital. C'est des indications, voilà, quand on a besoin d'avoir une sérologie très rapide. Donc, par exemple, dans les syndromes inflammatoires post-Covid, l'enfant qui vient, on suspecte une myocardite, ça peut nous aider d'avoir un test sérologique qui est positif si la PCR dans le nez est négative. Et alors peut-être que certains, vous l'utilisez déjà, ces sérologies au bout du doigt. Non ?
Non, pas du tout. Non.
D'accord. C'est peut-être que ça va venir, hein, mais après, il faut voir ce qu'on attend un peu de la sérologie, parce que faire des sérologies pour juste savoir si la personne a rencontré le virus, y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir, mais à part le fait de se rassurer ou de s'angoisser pour certains, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En intérêt clinique, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit dans nos prises en charge. Donc, je vous ai mis un papier avec les recommandations, un résumé des recommandations HAS, des indications de la sérologie. Alors, chez les soignants, c'est sûrement intéressant de savoir, pour multiples raisons, donc soignants, mais aussi vous, bien sûr, pas que à l'hôpital, y compris pour des raisons de déclaration en maladie professionnelle, si vous aviez une sérologie très positive, qui confirme que vous avez, pendant votre exercice des 2 mois précédents, rencontré le coronavirus. Donc là, ça peut se déclarer en maladie professionnelle. Donc à l'hôpital, on va tous avoir une sérologie pratiquement dans les 3 semaines ou le mois qui vient. Ça va commencer la semaine prochaine. Après, ça peut être intéressant en clinique pour les patients, donc surtout dans ces situations de syndrome inflammatoire ou de trucs un peu bizarres qui peuvent vous faire penser à des syndromes post-infectieux ou inflammatoires. Et puis après, c'est intéressant d'un point de vue épidémiologique. Mais là, c'est plutôt des études épidémio pour se rendre compte si dans une région, dans un département ou l'autre, on est à 5, 10 ou 20% de sérologie positive. Et donc, voilà. Mais vous savez que quand on a une sérologie positive, on ne sait pas encore très bien si les anticorps sont réellement neutralisants et donc si on est protégé. Et puis on ne sait pas combien de temps on va garder ces anticorps. Donc voilà. C'est encore compliqué un peu à interpréter. Mais je pense que vous allez en prescrire forcément des sérologies. Après, il faut voir ce qu'on en fait, bien raisonner un petit peu avant. Et ça, je ne sais pas encore où on en est sur le remboursement. Que ce soit une sérologie laboratoire ou les tests rapides. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les sérologies. N'hésitez pas, hein, si, ou aussi à me dire si il y a des points que vous connaissez déjà et d'autres que vous avez plutôt envie de développer un peu plus. Peut-être l'algorithme, hein, on peut revenir un peu dessus, parce que ça, je pense que là, vous allez être très sollicité, à mon avis. Nous, on commence à l'être déjà aux urgences pour un enfant qui a de la fièvre, qui a 38,5 en sortant de l'école ou en crèche. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, au début, hein, la DGS voulait qu'on teste et qu'on fasse une PCR à tous les enfants qui avaient plus que 37,8. Autant vous dire que je pense que là, ce n'est pas du tout raisonnable, surtout qu'encore une fois, on va trouver très, très peu de PCR positives. Hein, donc, l'intérêt va être très limité. Donc, on a réfléchi avec le groupe là, de pathologies infectieuses à un arbre décisionnel où on tienne compte de ce qui nous paraît quand même essentiel, c'est la notion d'une infection Covid chez un adulte proche. Donc ça, c'est sûr que ça va nous inciter chez un enfant qui a de la fièvre, si on sait que le papa ou la maman a fait une infection Covid confirmée, ça va quand même nous inciter à faire plus facilement une PCR. Donc normalement, les nouveaux cas qui vont arriver là, il y aura une proposition de dépistage un peu systématique de la famille ou de l'entourage quand il y aura un cas positif. Donc ça sera peut-être fait même en présymptomatique, mais si l'enfant 15 jours après ou 10 jours après a de la fièvre et devient symptomatique, là il faut éventuellement lui refaire le test PCR, sachant qu'on espère que ces tests PCR vont progresser. Déjà, ça va beaucoup plus vite qu'avant. On a des résultats dans la journée, etc., y compris dans les laboratoires de ville. Et on espère qu'il y aura bientôt une bandelette. L'idéal, ça serait d'avoir une bandelette qu'on met dans le nez, comme vous faites les TDR grippe ou le streptotest, qui permettrait de faire un diagnostic au cabinet très rapidement. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas au point et je pense que ça ne sera pas au point tout de suite. Alors, pour la PCR, donc si un enfant a des signes en crèche, etc., il a plus que 38, pris à 2 reprises, confirmé, il est irritable ou il a une toux fébrile ou des signes digestifs importants, là la recommandation c'est de toute façon qu'il consulte un médecin avant de on voulait absolument pas que et c'est ce que nous avait dit au début, ce que voulait la DGS, c'était que la crèche qu'il sorte de la crèche avec une ordonnance pour aller faire la PCR coronavirus. Donc ça nous paraît pas raisonnable, d'autant plus qu'il n'y a pas toujours un médecin de crèche qui est présent, etc. Donc, ça aurait été dans ce cas-là la directrice ou qui aurait donné l'ordonnance pour aller faire un prélèvement nasopharyngé. Donc, pour restreindre un peu les prélèvements nasopharyngés, on a souhaité que ça passe par un médecin. Donc, cet enfant, en pratique, il n'est pas admis en crèche. Si la maman dit elle arrive, il est à 38,5. Il va, dans ce cas-là, revenir chez lui. On va donner des conseils pour que... la crèche va donner des conseils pour qu'il reste à la maison. Ils prennent rendez-vous avec leur médecin ou ils aillent dans un centre ambulatoire Covid, tel qu'il y en a un à Bondy, par exemple. Et à ce moment-là, le médecin va juger de l'opportunité de réaliser la PCR effectivement s'il a des signes évocateurs et surtout s'il n'a pas d'éléments évidents pour un diagnostic tel qu'une angine, parce que s'il y a un streptotest positif, voilà, on va sans doute se passer de la PCR, de même que s'il y a une otite moyenne aiguë évidente, on va se passer de la PCR parce qu'on a un diagnostic. D'accord ? Donc on fait la PCR si on est devant une fièvre nue ou qu'on n'a pas de diagnostic. Et là, soit le médecin fait lui-même le prélèvement au cabinet, soit il envoie dans un laboratoire qui peut faire le prélèvement et la PCR. Ensuite, on attend le résultat de la PCR. Donc, à l'hôpital, maintenant, on les a en moins de 24 heures. Dans les laboratoires de ville, ça va quand même assez vite aussi, je crois. Tant qu'on n'a pas le résultat de la PCR, l'enfant ne peut pas revenir à l'école ou en crèche. Après, si la PCR est négative, ce qui sera le cas dans la plus grande majorité des cas, il revient à l'école ou en crèche s'il n'a plus de symptômes depuis 48 à 72 heures. On n'est pas obligé d'attendre de le mettre en quatorzaine, par exemple. Par contre, si la PCR est positive, là, bien sûr, il faut avoir un circuit qui permette de signaler cet enfant pour que les parents soient dépistés ils vont rester confinés, toute la famille, pendant 14 jours à la maison. Avec les circuits qui sont mis en place, que vous avez mis en place, par exemple, avec la CPTS.
Excusez-moi, des fois, on nous demande des certificats justement de non-contagiosité, hein. Chose qu'on ne peut pas faire.
Bah non.
Ça, c'est compliqué parce qu'ils veulent justement, avant de reprendre, ces certificats. Ouais.
Bah ouais. Mais normalement, les crèches ont eu la recommandation de ne pas demander ça, et les écoles aussi. Donc, ils doivent reprendre l'enfant à partir du moment où l'enfant a vu un médecin. Et qu'il est jugé que ce n'était pas nécessaire de faire un prélèvement. Mais bien sûr, il ne faut pas faire de certificat de non-contagiosité, on ne pourra pas le prouver. Nous, ça nous arrive de mettre un petit mot quand même pour l'école ou pour la crèche en disant que pour nous, il n'y avait pas d'argument pour une infection à coronavirus, c'est tout, quoi. Enfin, mais ce n'est pas un vrai certificat et où on met ça dans le carnet de santé aussi. Après, de même pour les écoles, hein, je pense que comme nous, vous devez être pas mal sollicités par des familles qui ne veulent pas mettre leur enfant à l'école parce qu'ils ont peur. Donc, on peut passer du temps à essayer de les convaincre. Enfin, moi, je pense qu'il faut essayer de les convaincre, etc. Donc, y compris nos enfants qui ont des pathologies chroniques, des diabètes, des asthmes sévères. Moi, j'essaye vraiment d'essayer de rassurer les parents et leur dire qu'en plus, avec les gestes barrières, leur enfant, il a pas de risque. Alors, quelques petites nuances quand même. Chez les moins de 10 ans, on est très, très à l'aise. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de forme grave chez ces enfants-là, et il n'y a pas de syndrome inflammatoire ou vraiment exceptionnel post-coronavirus. Donc là-dessus, on est particulièrement à l'aise. Chez les enfants immunodéprimés ou très fragiles, qui sont plus grands, qui sont peut-être un peu plus à risque d'abord d'être contaminés et ensuite de faire une forme un peu plus sévère, même si ce n'est pas prouvé. Là, on peut comprendre qu'un enfant qui est suivi, qui a une chimiothérapie et qui est très fragile, mais c'est un peu comme la grippe, quoi. Si les parents ne veulent absolument pas mettre leur enfant à l'école, ça va être compliqué de les convaincre. Et voilà. Actuellement, de toute façon, les écoles ne sont pas en capacité de prendre tous les enfants. Donc, c'est un peu dommage, mais je sais qu'il y a un certain nombre de pédiatres, hein, qui font de temps en temps, mais de façon assez exceptionnelle, des certificats pour ces enfants fragiles en disant effectivement, il faut peut-être mieux qu'ils restent à la maison. Mais ça doit être vraiment assez exceptionnel. Et la plupart de nos enfants, je vous dis, même très fragiles, on les met à l'école et on n'a pas peur de les mettre à l'école. Et il n'y a pas non plus de mesures barrières spécifiques. Il faut que ça soit les mêmes que pour les autres. Hein. On ne va pas les stigmatiser. Vous savez qu'au tout début, La recommandation, c'était des masques uniquement pour les enfants fragiles, quoi. Mais ce qui est quand même assez, assez lourd pour ces enfants, quoi. Ils vont tout de suite, c'est parce que je suis obèse, parce que je suis noir. Vous savez qu'il y a un des facteurs de risque, hein, c'est l'origine africaine, ça c'est clair, chez l'enfant et chez l'adulte. Donc voilà, on peut après imaginer un peu tout, hein. Enfin, donc, je crois qu'il faut, être raisonnable et il faut que, voilà, qu'il y ait des mesures barrières qui soient simples. Donc le port du masque à l'école, c'est pour les plus de 10 ans. Nous, on fait pareil à l'hôpital, hein. Les moins de 10 ans, c'est souvent illusoire d'imaginer qu'ils vont garder un masque toute la journée et ça a sans doute peu d'intérêt. Par contre, les ados, je pense que voilà, ils sont capables de comprendre. Ils sont peut-être même capables de faire un peu d'éducation civique à leurs parents, donc voilà, de montrer l'exemple. Voilà. Après, ouais, pour les écoles, vous avez beaucoup de difficultés. J'imagine que vous en parlez pas mal.
Nous, les écoles sont fermées en tout cas. Hein. Ouais, ils prennent très peu d'enfants. Il y a des priorités. C'est que pour les enfants dont les parents travaillent et des enfants du personnel médical. Ouais. Sinon, les écoles sont fermées.
Ouais.
Donc, même si on voulait mettre nos enfants, pas vraiment. Et c'est pas vraiment des cours, hein. C'est du gardiennage, quoi.
Ouais. Alors, les écoles primaires, il y en a quand même qui commencent à réouvrir, hein, la primaire. Le collège, ça va être un peu après. Bon, ça, après, chacun peut avoir sa philosophie et penser, voilà, moi, j'ai l'impression comme ça, mais que ça serait bien que les enfants reviennent à l'école au moins pour un certain nombre. Alors pareil, hein, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas une fausse bonne idée que de dire on va mettre tous les décrocheurs à l'école et pas les autres, parce qu'on va, quand même les montrer un peu du doigt, c'est quand même un peu compliqué pour eux, ou les enfants en difficulté sociale particulière. Enfin, pour nous, ils sont un peu tous en difficulté sociale dans nos populations, et je pense que pour un certain nombre, revenir à l'école, alors pas forcément pour les apprentissages, hein, parce que on va pas rattraper, j'imagine, les programmes et tous les apprentissages qu'ils n'auront pas eu pendant 2 mois, et c'est peut-être pas l'essentiel, mais effectivement, par contre, pour repérer un certain nombre de choses, pour leur refaire prendre un peu de sociabilité et pour dépister, hein. Enfin, l'école est quand même un bon outil pour dépister des enfants qui vont pas bien, qui ont souffert du confinement, etc. Enfin,
je pense que là il faut une campagne très très massive sur le fait que les enfants sont ni dangereux ni en danger à l'école ou en crèche, parce que je pense que c'est le principal obstacle là. Les décideurs, les maires, on entend beaucoup de discours très alarmistes, parce qu'ils sont restés sur l'idée de ce qui s'est dit au mois de mars et qui a d'ailleurs abouti à la fermeture des écoles et des crèches initialement. Ouais. Et non, là, il y a vraiment un enjeu de... Il faut que dans les médias, ça passe, quoi. Il faut que passe l'idée que les enfants ne sont pas dangereux ni en danger.
Ouais. Alors... ça commence un tout petit peu, mais c'est pas assez, hein, je suis d'accord. Enfin, à mon avis, il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Il y a une difficulté qui a été que le conseil scientifique, en plus, a été réticent et donc il y a eu un double discours qui a été catastrophique. La médiatisation, elle commence un petit peu. Il y a eu des communiqués de presse là, de la Société française de pédiatrie, etc., mais qui ne sont pas encore relayés beaucoup dans des grands médias. Mais voilà, vous pouvez participer tous. Enfin, je pense que voilà, il faut qu'on tous, on essaye de participer à cette explication avec déjà toutes les familles qu'on voit, avec les profs. Enfin, moi, j'ai fait quelques réunions comme ça, Zoom, avec des enseignants d'école. pour essayer de les motiver et de leur dire qu'ils, s'ils attrapaient le coronavirus, ça ne serait pas par leurs élèves, quoi. Ça serait par leurs conjoints, ça serait dans la rue, mais que ça ne serait pas par leurs élèves et qu'il ne fallait pas qu'ils aient peur de ça. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on a dit qu'on allait ouvrir les écoles et les crèches et puis on met des mesures tellement contraignantes qu'en fait, c'est comme si on n'autorisait pas l'ouverture. Donc, mais ouais, je suis d'accord. On va essayer de continuer à militer. Moi, je ne suis pas sûr d'être le plus médiatique, mais on essaye d'écrire un peu dans les journaux là, en ce moment. Ouais. Et ça intéresse moins les journaux que d'autres choses. Ouais.
Il faut demander à Grimaldi de le dire. Lui, il est médiatique.
Ouais. Après, je pense que c'est vrai que nous, comme pédiatres ou médecins généralistes ou en tout cas acteurs de la petite enfance, je pense qu'on a aussi un rôle dans la promotion de tous les bienfaits de l'école, de la socialisation. Et c'est vrai qu'on est un peu inquiet, hein, en particulier pour les petits, sur le développement. Qu'est-ce qu'on va retrouver un peu comme enfant 6 mois après une période sans des périodes de confinement quand même assez dures, des fois des tensions dans les familles, etc. Donc beaucoup d'écrans, ça, je pense que ça peut-être que ça joue, ça peut jouer aussi sur des difficultés à venir. Donc c'est vrai qu'on peut essayer de promouvoir ça.
Ça me fait penser, là, il y a un papier de la Société française de pédiatrie médico-légale qui est sorti ces jours-ci pour aussi attirer l'attention des soignants sur les symptômes, les signes que peuvent présenter les enfants et aussi la façon de les interroger et de mener les examens cliniques.
Ouais.
Pour essayer de repérer les enfants qui ont pu être victimes de violences ou de maltraitance. Mm.
Alors, ouais, ça c'est le dernier point. Enfin, je ne sais pas si vous vouliez reparler plus des écoles ou des crèches, mais sinon, c'est vrai que ça fait la transition, mais effectivement, un de nos challenges en pédiatrie, là, hein, c'est nous, on est plus inquiets sur une mortalité ou une morbidité qui serait liée à des retards diagnostiques, qui serait liée à. Oui, effectivement, peut-être des maltraitances ou des difficultés psychologiques d'adolescents suite à cette période de confinement, etc. Alors, oui, c'est bon ?
Oui, c'est bon. Ouais.
Donc là, je pense qu'il faut être assez vigilant sur certaines situations. Alors, nous, on a eu quand même des découvertes de diabète très tardives. Donc, des enfants qui sont arrivés en acidocétose parce que les parents, pendant le confinement, n'ont pas voulu sortir. Donc, ils sont restés avec des symptômes qui ont traîné. Des découvertes de leucémie. On a été très étonnés parce qu'il n'y a eu pratiquement aucune découverte de leucémie pendant 2 mois. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de leucémie pendant 2 mois. Et donc, ils sont tous arrivés. Ils arrivent en ce moment, quoi, hein, avec... des tableaux plus avancés. Il y a un enfant qui est arrivé avec 1 gramme d'hémoglobine à Robert Ballanger. On a eu éventuellement quelques enfants avec des maladies inflammatoires ou des maladies chroniques aussi qui ont traîné. Donc ça, il faut être un peu attentif là-dessus. Mais bon, voilà, ça c'est votre rôle, enfin c'est notre rôle de médecin. Donc, c'est pour ça qu'on promouvoit. Alors, il y a heureusement pas mal d'enfants où il y a eu un suivi par téléphone. Mais je pense qu'il faut éventuellement essayer d'aller chercher ces enfants. Quoi. C'est-à-dire si on a la notion qu'il y a dans notre file active des enfants qu'on n'a pas revus depuis longtemps… essayer de être un peu proactif pour aller les chercher, leur demander de revenir, consulter et les rassurer sur le fait qu'on a mis en place des circuits, qu'ils n'allaient pas se contaminer nos cabinets de ville ou d'hôpital, et que voilà, après il faut arriver à organiser un petit peu ces filières, mais et puis on rattrapera pas le retard, ça c'est pas, y a plein de consultations qu'on va pas rattraper, mais voilà, on a des enfants qui avaient des qu'on n'a pas pu voir du tout en consultation, mais qui étaient tout petits avec un début de retard de développement. C'est vrai qu'on est impatient maintenant d'essayer de les voir et faire les examens nécessaires pour pas qu'il y ait de retard de prise en charge importante.
Il y a l'enjeu des retards de vaccination, hein,
tout simplement. Ouais, ouais.
Qui est très important. Hein. Je ne sais pas trop en Seine-Saint-Denis ce que ça donne, mais il y a des territoires où c'est vraiment, vraiment très marqué. Nous, on a maintenu ce qu'on a pu au niveau de la PMI, puis je pense que chacun l'a maintenu ce qu'il a pu faire. Mais il doit y avoir quand même des enfants qui sont passés au travers, notamment le deuxième ROR, mais peut-être même les vaccins de la première année.
Hein. Ouais, ouais. Ouais, ça va falloir faire attention. Alors, le seul élément que moi j'ai, c'est les labos de vaccins, hein, qui disent qu'ils ont vendu 30% voilà. De moins. Ouais. T'as entendu ça aussi, hein, enfin, oui, 30% de moins.
30% de moins, oui.
Ouais. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est ouais. Et après, ouais, je pense que c'est assez hétérogène, effectivement. Enfin, vous avez pu maintenir quand même. Pas mal de cabinets de consultation de consultation de PMI ouverte et les médecins généralistes aussi, mais enfin voilà, il y a clairement des gens qui ont peur encore de venir, hein, c'est ouais. Donc ça, les rattraper, alors c'est là que l'école peut, enfin ou les crèches peuvent aussi avoir un petit rôle de dépistage à ce moment-là. Alors nous, on est un peu attentif quand ils passent aux urgences en ce moment là-dessus, quoi, pour essayer de les renvoyer vers vous si on voit que les vaccins ne sont pas à jour. Hein. Mais enfin, toutes les manières qu'on a de capter, mais aussi d'informer, c'est pareil. Hein, les campagnes ne sont pas… pas beaucoup de campagnes qui redisent ça de façon… Voilà, bon, les gens reviennent peut-être quand même un petit peu. Là. Je ne sais pas si vous avez en ville, vous avez des consultations qui se remplissent ou.
Oui, ça repart. Hein. On a beaucoup de gens maintenant qui reviennent, hein, depuis le déconfinement. Ouais.
D'accord.
En PMI aussi. Les gens reviennent beaucoup.
Et pour les cabinets de médecine générale, vous avez pu, enfin, vous avez des quelques créneaux réservés si c'est des enfants ou des adultes qui ont de la fièvre ou qui ont des symptômes respiratoires, vous arrivez à les voir un peu à part ou ouais.
Dans notre cabinet, les circuits sont séparés, bien entendu, mais moi, je n'ai pas eu beaucoup d'enfants ces dernières. Ouais. Donc, j'ai des vaccins, bien entendu, pour lesquels les bébés qui sont revenus avec les parents. Sinon, j'ai eu un enfant de 12 ans qui développe des troubles obsessifs dus à confinement, qui se lave 15 000 fois la main. Donc, ça m'a beaucoup touchée aujourd'hui.
Ouais.
Donc, on va suivre. Donc, je leur ai demandé de venir dans 15 jours. Et puis, si je vois que c'est inquiétant, on va peut-être l'adresser. Voilà. Donc, c'est les premières nouvelles depuis le confinement pour les enfants. Et bien entendu, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu. Hein.
Ouais. Bah, nous, ça a été toute la période a été quand même très, très calme, hein, en pédiatrie. On a pu, on a fermé presque les trois quarts des lits. On a une diminution de 80% du nombre de passages. Donc, on voyait, voilà, les seuls enfants qui venaient, c'était pour des choses plutôt avancées. Alors, ce qui nous a permis d'aider les adultes, hein, 'fin, tous les pédiatres là, se sont mis à faire de la médecine adulte ou faire ce qu'ils pouvaient, enfin, toutes les infirmières en tout cas. Voilà, donc là, on est reparti dans notre… enfin, c'est pareil, hein, l'activité reprend et les enfants reviennent, et surtout avec des pathologies souvent un peu avancées. Donc
on, alors, on va voir l'obésité aussi. Hein. L'obésité.
Ouais.
Ouais. Comme les adultes.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être ? Je relance comme ça.
Donc, il y a quelques pays hein, qui avaient décidé de ne pas fermer les écoles et les crèches et qui, même pendant la période de confinement où les gens étaient confinés et il n'y avait que les écoles et les crèches qui étaient ouvertes, et c'est une stratégie qui pourrait être discutée, voilà, s'il y avait une deuxième vague et un deuxième… c'est sans doute plus logique de laisser les enfants un peu en collectivité avec quelques mesures barrières sûrement et faire attention, mais… Après, le risque, c'est plutôt les parents qui se retrouvent à la sortie de l'école et qui discutent et qui… Voilà. mais encore une fois, ce message, je pense que c'est le message important, c'est que les enfants, ils ne sont vraiment pas responsables hein, dans cette histoire.
Ouais. D'une certaine façon… les adultes, par exemple, en crèche, n'auraient pas tellement besoin de porter les masques quand ils sont juste avec les enfants.
Non. Il y a probablement que, encore une fois, avec les petits, il n'y a pas de problème. Enfin, avec des grands, c'est un tout petit peu différent, avec des ados. Mais la Suisse, par exemple, a très vite recommandé que les petits-enfants puissent aller voir leurs grands-parents. Elle a dit attention aux ados, bon là vous mettez des masques, mais les petits-enfants peuvent aller voir leurs grands-parents alors que c'est des sujets fragiles, mais qu'il vaut mieux que les petits-enfants aillent voir leurs grands-parents que des adultes, ça c'est sûr. Bon. Enfin, nous, on est disponible hein, à la fois par le numéro des urgences, hein, 48-02-60-36, pour si vous aviez une difficulté. Voilà. Alors, on peut toujours voir des enfants, y compris pour faire un prélèvement, si c'est un week-end ou si c'est un horaire qui est compliqué pour le laboratoire de ville. C'est vrai qu'on a envie d'essayer d'éviter d'être engorgé par tous les prélèvements. Ils vont être sans doute assez nombreux et ce n'est pas tout à fait la mission des urgences pédiatriques. Mais pour des enfants qui vous inquiètent, bien sûr, des enfants pour lesquels vous avez besoin d'un prélèvement et que ça vous paraît urgent et qu'il n'y a pas beaucoup de recours. Après, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse bien à quelques laboratoires qui veulent bien faire des prélèvements chez les enfants, justement. Ouais. Je sais qu'il y en a un à… je ne sais plus, c'est celui qui travaille avec la CPTS, enfin avec la… pas toute la CPTS, mais avec le centre Covid.
Cléopâtre à Drancy.
Ouais, c'est ça.
Tu peux redire ?
C'est le laboratoire Biopath à Drancy.
Biopath.
Uniquement sur rendez-vous, mais tu peux indiquer aux parents de prendre rendez-vous via Doctolib.
Donc, eux, ils sont formés pour faire les prélèvements chez les enfants. Et bien sûr, le centre Covid de Bondy. Mais Marine, tu peux nous dire, le centre Covid de Bondy, c'est prévu qu'il fonctionne encore combien de temps et…
Pour l'instant, on a nos locaux jusqu'à fin août et on va continuer à exister tant qu'il y aura besoin. Peut-être qu'on fermera avant si l'épidémie s'arrête, mais on a les locaux jusqu'à fin août. On est en capacité d'assurer pour l'instant jusqu'à 20 prélèvements jour pour les patients symptomatiques s'il y a besoin via le laboratoire Biopath, sans compter les prélèvements pour les cas contact.
Ouais, tu veux dire un tout petit mot, Marine, peut-être de Covisan et de cas contact, justement, quand il y a un diagnostic qui est posé, mm-hmm.
Alors, il n'a pas besoin d'être posé pour rentrer dans Covisane. On a juste besoin d'une forte suspicion, d'avoir un cas contact dans Covisane, du moins Bondy, un cas contact de plus de 16 ans. Mais je sais qu'il y a un Covisane Robert Debré qui va jusqu'à des patients index infectés jusqu'à 12 ans. D'avoir des symptômes depuis moins de 14 jours, donc pour être toujours contagieux pour ses proches. Et donc des symptômes compatibles. À ce moment-là, pour ceux qui se trouvent dans leur cabinet ou au centre, il suffit de nous adresser le cas index qui va être reçu par le médecin, évalué via Covisane par un enquêteur qui va avoir qui étaient les cas contacts les jours de où il a présenté des symptômes ou les trois jours qui ont précédé l'apparition des symptômes. On va pouvoir leur proposer à tous d'être prélevés sur le site. Et si évidemment ils présentent des symptômes, de les prendre en charge également sur le site Covisane de Bondy.
Merci Marine. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Une dernière question peut-être pour terminer?
Moi, c'est une question à Loïc. Est-ce que tu es disponible pour refaire ce topo à d'autres collègues, par exemple en PMI pour ce qui nous concerne?
Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Oui, pas de problème.
C'est vraiment... C'est vraiment très éclairant.
Oui, ouais, non, mais je pourrais. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais bon, là, je n'ai pas pris le temps de faire un diaporama. Enfin, je peux aussi argumenter sur peut-être des références et des articles un peu plus détaillés si vous souhaitez. Mais oui, il n'y a pas de problème pour essayer de le diffuser et on va essayer de. Ouais.
Donc du coup, non, sachez que cette vidéo a été enregistrée. Du coup, vous aurez quand même les éléments qui ont été abordés ce soir. Donc voilà, je vais vous l'envoyer demain au maximum.
Génial.
Ouais. Ouais. Et la technologie. Peut-être un petit mot de la fin, professeur Pontual.
Bah moi, je dirais que ouais, chez les enfants, faut. Je ne pense pas être trop inquiet par ce virus, mais qu'on peut être un petit peu inquiet par la suite. Hein. Donc là, et ça veut dire être vigilant. Hein, on se soucie forcément des enfants qu'on prend en charge. Voilà, en particulier l'aspect psychologique hein, de ces enfants. Voilà, comment est-ce qu'ils vont vivre tout ça? Il y en a qui ont perdu leurs parents, leurs grands-parents, ou qui ont. Donc là, c'est pareil. Hein, les psychologues travaille quand même beaucoup maintenant à cette période après quoi. Donc les psychologues de la PMI sûrement, à Jean Verdier il y en a aussi, si on commence à faire des groupes y compris avec des enfants qui nous parlent un petit peu de leur vécu et de cette période, de même qu'on le fait avec les soignants ou avec à l'hôpital. Mais voilà, il y a sans doute cette deuxième phase qui va être assez importante à gérer, avec l'anxiété d'une deuxième vague pour beaucoup hein, on aura l'occasion de reparler et puis de peut-être refaire un topo plus tard sur l'évolution et peut-être qu'on en saura plus aussi. Merci.
Et merci à vous pour votre intervention.
On va remettre les micros pour applaudir.
Oh. Merci beaucoup.
Merci pour votre intervention. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion.
Merci
beaucoup. On met l'enregistrement demain grand maximum sur le groupe. Hein.
Super.
Super.
Bonne soirée à vous tous.
Au revoir. Merci.
Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.